Ben, je suis Maïti.
Merci, bonjour. Je vais vous parler d'un metteur en scène qui est Richard Peduzzi, qui a été le metteur en scène avec lequel Patrice Giraud a conçu la plupart de ses décors. Patrice Giraud est décédé en 60 ans récemment, en 2013.
Voilà.
Nous a quittés en 2013 et en 2014, Richard Peduzzi a publié un livre qui s'intitule Là-bas, c'est dehors. Et c'est ce livre-là qui m'a donné envie de vous parler à propos de l'escabeau. Alors, je me suis aussi appuyée sur l'excellent texte très dense de Castanet dans le Silicette. Et je prends les choses un peu avant, à partir de Freud. Pour Freud, les investissements de la libido dans l'enfance se transforment lors de la puberté au cours de l'adolescence. Il écrit en 1938 dans l'abrégé de psychanalyse que lors de la phase génitale, ces transformations comprennent trois issues. Premièrement, de nombreux investissements anciens de la libido persistent sous la même forme. Deuxièmement, d'autres s'intègrent dans la fonction sexuelle pour constituer des actes auxiliaires ou préparatoires à l'acte sexuel. Troisièmement, d'autres tendances se trouvent éliminées, soit par répression totale, et c'est le refoulement, soit en étant utilisées de façon différente dans le moi. Elles forment des traits de caractère ou subissent une sublimation avec déplacement de but. Pour Freud, le passage du symptôme à la sublimation s'effectue comme une élévation. Ça a déjà été dit. J'ai piqué ça à Castanet. Etc. C'est retracé dans le... Vraiment, je vous encourage à lire au moins, à lire le Silicette. Pour Lacan, dans le séminaire 7, l'éthique, la sublimation, c'est élever un objet à la dignité de la chose. Cette chose est muette, sphère fermée, et même si elle attire vers le haut, elle reste inaccessible. C'est un point de mire. En 1975, Lacan propose, pour qualifier l'esthétique de Joyce, un mot écrit « escabeau », comme c'est écrit là-bas, le modeste escabeau. On s'y hisse, dit Castanet. Oui, on s'y hisse, mais pas bien haut. Dans le Silicette, voilà, du Congrès. Le terme escabeau, avec sa typographie étonnante, dénude le réel auquel l'artiste se confronte et que les sublimations voilent. Au cœur du beau, toujours ce SK énigmatique, hors sens. Castanet continue. En 1960, la sublimation est montée vers les cieux. En 1975, les cieux et le Père universel déchoient. Un réel est dénudé, ouvrant un usage pragmatique. Il met en avant l'usage des pièces et des morceaux pour un bricolage plutôt tordu et non droit ou rond, c'est-à-dire la sphère. Il poursuit sur la nécessité du corps, en citant Lacan dans la radiophonie. L'escabeau, c'est ce que conditionne chez l'homme le fait qu'il vit de l'être, ou vide l'être, autant qu'il a un corps. Il ne l'a qu'à partir de là. Si pour Lacan, dans les années 60, le symptôme freudien est vérité, donc métaphore, par contre, avec l'escabeau, le symptôme devient événement de corps. Le symptôme est alors défini par Castanet comme la façon de bricoler singulièrement avec l'incurable du réel. Ce traitement du réel est sublimation. Cette dernière est indissociable de l'homme comme par l'être. L'homme écrit L'O-M. Cette hypothèse de l'incurable du réel est celle que je me propose d'examiner avec vous comme piste de travail dans la lecture du livre de Richard Peduzzi qui s'intitule « Là-bas, c'est dehors ». La répétition de quelques signifiants tout au long du texte et une petite histoire que l'auteur va nous transmettre ordonne certains de ces signifiants. Ils m'ont assez frappé pour que j'ai envie d'en faire la liste avec vous. Et en faisant cette liste, j'y ai ajouté un objet. Là-bas, c'est dehors est le livre que Peduzzi publie en 2014 comme le metteur en scène dont le nom précède le sien depuis les années 70 vient de disparaître presque un an plus tôt. Voici le texte de la quatrième de couverture. Faire des décors de théâtre, pour moi, c'est ma façon d'échapper à l'enfermement. C'est jongler avec le temps, c'est jouer avec le monde dans l'espace restreint d'une cage de scène, faire glisser un continent dans un autre, traverser des murs et voir apparaître sur des feuilles encore vierges des architectures de papier, comme vous pouvez la voir derrière moi, et avec des allures de marbre qui se déplacent sur un plateau. Ce qui est derrière, c'est une étude pour le décor de la dispute de Marivaux. Sans école et sans maître, je n'ai jamais su que ce que j'ai vu et entendu autour de moi, ce qui m'a marqué, blessé, ce que j'ai attrapé au vol ou dérobé au temps. J'ai trouvé avec ce métier un moyen de comprendre l'existence, de batailler contre l'inquiétude. Au fond, ce que je cherche depuis ma toute petite enfance, c'est une porte de sortie. C'est m'extraire de moi, explorer comme un scaphandrier et redessiner les souterrains situés au plus profond de moi-même. 5 ans et... C'est le début du livre. Hein, 5 ans et la fenêtre donnait sur un champ de ruines. Nous sommes au Havre. Il est né en 1943, la ville n'est pas encore reconstruite. Mais l'étrangeté se poursuit de l'autre côté de la page, juste derrière la belle aquarelle que je faisais, grâce à nos techniciens qui nous ont tout installé. Ça, j'ai pu avoir ça. Vous l'avez, au lieu de vous faire passer le livre. Après tout, je pourrais faire passer le livre aussi. Hein. Donc juste derrière cette belle aquarelle, donc c'est une étude pour les décors de la dispute de Marivaux. C'est un pan de mur percé d'une porte qui est fermée et qui se dresse seul, ce pan de mur, sur un sol qui le reflète et le prolonge. On peut imaginer un sol ciré ou de l'eau, variation dont Richard Peduzzi ne se privera pas. Ma grand-mère me dit, nous allons bientôt la voir, ne t'inquiète pas. Voilà l'inquiétude. Bien sûr, l'inquiétude est là. Et l'auteur en témoigne avec précision, le mot est déjà sur la couverture. Mais aussi en usant d'un style qui surprend, car il ne donne pas les informations dans le bon ordre, il restitue au contraire le désordre de la pensée, du monologue intérieur, mais aussi la singularité de la perception dispersée et incomplète de la réalité. Il va voir sa mère en prison. Une sonnerie métallique annonça la fin de la visite. Ma mère commençait à s'éloigner, elle nous tournait le dos, j'éclatais en sanglots. J'avais la sensation de ne plus exister. Une ou deux têtes se sont retournées, dont la sienne. Elle nous envoyait des baisers de la main et elle s'écria « N'aie pas peur, nous nous reverrons là-bas. »« Où ça ? Où là-bas ?» Et elle dit « Là-bas, c'est dehors. » Il ajoute « Je reverrai toujours ce voyage, ce dédale de hautes murailles aveugles qu'il fallait franchir avant d'apercevoir ma mère derrière les barreaux. J'entends encore ces mots « Là-bas, c'est dehors. » Depuis, je me sens à l'étroit, hanté par la terreur de l'enfermement, celle d'être coincé dans une impasse, pris au piège. Puis il y aura la description des explorations 2 ans plus tard, vers 7 ans, en cachette, la nuit, semble-t-il, des ruines du port du Havre, en compagnie d'un homme qu'il appelle son bon géant, qui cherche des trésors laissés par les habitants qui ont fui les maisons abattues. Le café de la grand-mère et du fantomatique grand-père est resté debout. Par le caprice d'un dieu aussitôt disparu, son choix fait, seul dans un décor de ruines. Nous comprendrons que la famille paternelle, chez laquelle il vit, en dehors des grandes vacances, à Verneuil-sur-Avre, voilà, donc on réentend Havre, qui le pousse à lire, écrire, continuer de travailler à l'école, n'a pas marqué l'enfant du sceau de la vérité. Que son père, qui est absent, mais dont le progressisme aurait pu lui faire saisir l'activité des grands-parents et leurs valeurs rigides, a suscité plus de rejet que d'amour. Le son Havre qui nomme les deux lieux n'a peut-être pas peu contribué à la déroute du sentiment de la distance. Et donc du temps. La rencontre des parents, tracée comme par un brouillard, permet de saisir que cela se rapproche de la rencontre d'un parapluie et d'une machine à coudre, table de dissection ou pas. Les grands-parents des deux familles, faisant office de cœur antique, interprétant chacun une partie de lamentation dans son style propre, mais dont la réunion contradictoire bouche définitivement toute solution de réussite cohérente de cette rencontre. Seule surnage, la commune condamnation de ladite rencontre et donc de son fruit, c'est logique. Même si du côté maternel persiste, discrète mais heureuse, une indulgence eu égard à la cause, l'amour. C'est son père qui plus tard va lui expliquer la rencontre, mais le récit m'a été incompréhensible. La faute, le récit qu'il en fait dans le livre, la faute que la mère expie injustement, d'après le père, politique, dira Richard Peduzzi dans une interview, reste opaque. Il restera deux choses du père, l'Italie et la peinture. Mais ce ne sera fixé et donc exploitable qu'une fois la rencontre faite d'un maître en peinture. Le père, peintre de loisirs, comme son fils le définit, revenu s'occuper de l'entreprise du grand-père, ne lui fera pas de place dans le nouveau foyer qu'il vient de fonder. Sa mère non plus, car aussitôt sortie de prison, elle part et ne reviendra que plus tard, mariée elle aussi. Puis elle sera fuyante. Mon père, ma mère, mes grands-parents, chacun trouvait sa place. Je voulais trouver la mienne. Turbulent, mal à l'aise, j'allais d'établissement en établissement sans rien apprendre. À l'adolescence, à 15 ans, il est mis à la porte de tous les établissements. Il s'enfuit pour rejoindre sa tante à Paris. Il a pu l'apprécier à Verneuil. Elle se promenait avec lui, rendant vivante la nature environnante et ouvrant sur le désir de savoir. Elle nommait un par un les poissons que nous regardions. Je ne m'ennuyais pas avec elle, écrit-il. Mais à Paris, cette modeste accroche ne tient pas. Ce qui émerge d'une description de grande dérédiction, avec des heures dans le métro d'un terminus à l'autre ou dans les égouts, très poétiquement mais aussi très précisément décrite, c'est le théâtre, dont les acteurs lui paraissent vivants, parlant et bougeant à côté de nous. Deux souvenirs précis. Les décors sont lourds, naïfs, font obstacle, et l'ennui pendant les changements de décor, l'impression d'être prisonnier. À ce moment-là, écrit-il, j'imaginais déjà que les acteurs auraient pu jouer sur un plateau vide, mais j'étais loin de penser que, toute ma vie, j'allais museler les yeux pour tenter d'habiter ce vide sans le perturber. Engagé grâce à l'attente dans un travail de dessinateur industriel, il n'en peut plus et finit par pousser la petite porte sur la rue. Voilà l'objet. Hein, la porte qui était fermée. Alors, on va peut-être passer une porte ouverte. Voilà. C'est un des décors faits pour Hamlet dans la cour du château des papes. Voilà. J'étais loin de penser que toute ma vie, j'allais muser les yeux pour tenter d'habiter ce vide sans le perturber. Je trouve que cette illustration est très claire. Engagé grâce à l'attente. Oui, voilà. Il pousse la petite porte sur la rue. J'avais l'impression de retrouver ma respiration, rien que ça. Toute ma vie, j'ai eu l'impression de pousser une succession de portes qui ressemblaient à des issues de secours et d'apercevoir d'autres horizons. L'errance a recommencé. C'est le jazz, dit-il, rencontré à Saint-Germain-des-Prés, qui va l'arrêter un peu, parce que cette musique, c'est lui qui le dit, lui permet de s'habiller, cela lui donne un style. Il croise des personnages célèbres, mais il les cite comme étant fichus dehors par des patronnes de café. C'est très, très intéressant, il y a toute une série de particulièrement d'artistes noirs qu'il côtoie. Il parle de Bud Powell, qui est effectivement un très grand jazzman. Enfin, en tout cas pour moi. C'est le sculpteur Charles Auffray qui se fera aimer assez pour que Richard Peduzzi accepte de participer à ce qui ressemblait à un combat pour la vie, avec les formes, l'ombre et la lumière, avec le temps qui passe. C'est comme ça qu'il perçoit ce dont le maître lui paraît moteur. La rencontre avec Chéreau. La rencontre avec Patrice Chéreau, son cadet d'un an, comme nous avions un peu plus de 20 ans, va transformer son existence. Chéreau, lui aussi, lors de cette première rencontre, comme la tante, explique et nomme le sens et la fonction des fils, des treuils et des rouages poussiéreux. Les rouages, les roues de fer évoquent pour lui le souterrain ou les quais explorés au Havre pendant son enfance. Quelque chose résonne pour lui dans ce décor où Chéreau répète. La roue de fer du décor, qui sera immortalisée par le cinéma dans la tétralogie de Wagner, va faire couler beaucoup d'encre. Et sa filiation avec les roues contingentes de la première rencontre avec le metteur en scène est explicite pour l'auteur. Il le dit comme ça. Le théâtre est une boîte à rêves carnivore. Il est à la fois une forteresse et une prison. Un observatoire aveugle qui s'exerce à étudier le monde. Il est un toit, un abri. L'effet d'interprétation. Je termine par un récit qui est mis en exergue par l'auteur à la fin du premier chapitre. Il s'agit de la réflexion d'une petite fille qui s'intéresse au travail qu'il a effectué pour le décor de la dispute de Marivaux. Le décor est composé de deux parts, des murs, qui représentent un lieu fermé, sans ouverture sur le monde, et d'autre part, une forêt au fond, quand les murs sont repliés, mis sur les côtés. La dispute de Marivaux, j'ai envie d'en dire quelque chose, c'est une fiction inventée par Marivaux, où il y a deux personnages, un homme et une femme, qui décident de monter une expérience pour savoir si en élevant des garçons et des filles ensemble, il va se passer quelque chose ou pas. Et pour ça, on les met dans un lieu qui est fermé et qui s'ouvre au fur et à mesure de la pièce et qui finit par s'ouvrir sur le dehors que Peduzzi a représenté par une forêt. Il décrit ce décor après la représentation comme sans vie, vide comme le théâtre quand les spectateurs sont partis. Il dit, l'on apercevait le décor immobile, sans lumière, sans vie. Il est avec quelques amis dans la salle, venus avec leurs enfants. Une petite fille est venue vers moi, elle devait avoir environ 7 ans. Elle m'a interrogé sur le spectacle, les sons, les acteurs, les lumières. Ses questions étaient graves et profondes. Elle voulait comprendre quel était cet endroit et timidement, en montrant les murs, elle m'a posé cette question. Ça, c'est une prison ? Puis, indiquant la forêt du doigt, elle m'a fait le plus beau compliment qu'on ne m'ait jamais fait sur mon travail. Et là-bas, c'est dehors. Cette parole résonne étrangement pour celui qui nous rapporte ce souvenir. Cela fera interprétation pour lui, même s'il discute ce terme dans une interview. Il témoigne malgré tout du réordonnement des souvenirs et même d'un matériel nouveau, comme l'exige Freud à propos de l'interprétation qu'il porte. Oui, cette réflexion de l'enfant, elle a 6 ans et demi, donne soudain vie à ce lieu qui était vide. La raison de vivre se dégage du rapprochement entre le prison et le là-bas c'est dehors. Cœur du récit du souvenir d'enfance, de l'étrange de la rencontre avec la mère. C'est la réflexion de la petite fille qui fait pont entre les deux. C'est cette coïncidence des signifiants qui permet que la vie pénètre le décor, de même que dans la pièce de théâtre, celui-ci permet que la présence des acteurs soit porteuse de vie. Voilà, je voulais vous proposer une construction. pour essayer de saisir qu'est-ce que peut être un escabeau et pourquoi il y a d'un côté une écriture et de l'autre le mot beau. Donc, je vais compter jusqu'à 5, deux paires signifiantes plus un objet. Les paires signifiantes, il y a là-bas et dehors. Et de l'autre côté, il y a Havre et le Havre. L'objet, c'est la porte. Pour moi, c'est la porte. Ça s'ordonne dans une première scène qui est au Havre. André, le bon géant avec lequel il explore les ruines, est mis dehors par sa grand-mère qui tient le café entre ruines et maisons de passe. La scène se répète une première fois pour lui-même, sa mère qui dit « dehors » pour se revoir là-bas. Puis quand elle est sortie, elle ne le prend pas avec elle comme il a cru qu'elle le ferait. Quand il la revoit une fois sorti de prison, la porte ouvre sur un vide, il se fait renvoyer de toutes les institutions. Ça se répète encore. Une fois que les signifiants Havre et le Havre sont distingués, ça permet des allers-retours et une substitution minimale. La sœur du père travaille à Paris, il peut partir pour Paris. Là, il explore les routes de l'homme libre selon Lacan. Il expérimente le dehors, qui n'existe pas, ni dans les bas-fonds, ni même dans les souterrains du métro, parcouru d'un terminus à l'autre pendant plusieurs jours. Enfin, il y passait la plus claire de son temps. Dans 3, un autre est jeté dehors. Le pianiste de jazz, Bud Powell, qui s'alcoolise et se fait jeter. Un peu plus tard, il le rencontre de nouveau et il écoute, comme tous les autres, un dieu qui les enchante par sa musique. Dans 3 bis, le professeur de dessin, rencontré après le travail dans une entreprise de dessin industriel, et la découverte de la petite porte comme issue de secours. Et enfin, la technique acquise, la rencontre avec un homme d'exception et les décors, semblant qu'il fait escabeau, un endroit d'où il peut se voir beau, mais qui voile le sans-issue du dehors. Voilà.
Merci.
Ah oui, je vais pas passer la dernière. Oui. Je ne vous ai pas passé la dernière diapo. Alors, Peduzzi ne fera pas que des décors. Il va. C'est même tout à fait extraordinaire, parce qu'après cette adolescence-là, nos évaluateurs lui donneraient vraiment pas beaucoup. Voilà. Eh bien, ce monsieur, non seulement est devenu le décorateur de Peduzzi, mais il est.
De Chéreau.
Mais il est aussi devenu administrateur d'une école, l'école des arts décoratifs. C'est à lui tout un travail qui a été fait dans un endroit qui s'appelle la Manufacture des œillets. Et puis, il a quand même été aussi responsable de la Villa Médicis. Et là, justement, j'ai choisi. Enfin, c'est dans son livre, c'est quand même tout à fait extraordinaire pour illustrer son travail. C'est le jardin de la Villa Médicis. L'œuvre d'art n'est pas la sienne, c'est quelqu'un d'autre. Lui, il n'a fait qu'organiser les choses pour que cet événement-là puisse avoir lieu. Donc c'est quelqu'un qui continue de s'effacer et de rester très dit. Il organise, il est derrière, il nous donne des belles choses à voir. Mais c'est pour voiler qu'il n'y a ni liberté, ça c'est clair qu'il a essayé quelque chose du côté de la liberté, et que c'était quand même pas formidable comme résultat, et ni un dehors, il n'y a pas de dehors.
C'est vraiment la fourmi sur la bande de Möbius.
C'est vraiment la fourmi sur la bande de Möbius.
Merci.